Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouverez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
Salut tout le monde, bon début de semaine. Ici Jérémy Filosa et bienvenue à une autre édition de Sortie de zone. Plusieurs sujets sur la table aujourd'hui, comme à l'habitude. On va faire tout de suite le tour des panélistes qui vont participer à l'émission d'aujourd'hui. Jérémy Rainville du 98.5. Salut Jer.
Salut Philo.
On a Alexandre Pratt de La Presse. Salut Alexandre.
Salut Philo.
Et Simon-Olivier Lorange, aussi de La Presse. Salut Simon-Olivier.
Salut Philo.
Alors les gars, écoutez, on est peut-être dans la première... petite phase moins bonne du Canadien, mais écoute, je le dis comme ça, j'ai pas aimé le match de samedi, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai trouvé que le Canadien a montré certains mauvais plis qu'on avait vus l'année dernière, un petit peu d'indiscipline, le jeu en avantage numérique un petit peu difficile aussi, les chances de marquer peut-être pas d'aussi bonne qualité, j'ai pas aimé les deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa, on sort de là avec 2 points sur 4, c'est pas la fin du monde, on peut retourner travailler à l'entraînement et aller chercher les petites choses qu'on a moins bien fait, mais ça m'inquiète un petit peu.
OK, moi, Philo, je te trouve sévère, premièrement, sévère, et je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que tu as raison quand tu parles d'indiscipline. Ben Sherrod, ce qu'on a vu de lui, là, c'est inadmissible. T'sais, le gars, physiquement, pourrait tellement plus s'imposer avec son corps qu'avec son bâton, mais là, on a pris... Tu as raison en parlant d'un mauvais pli. On a l'impression que les défenseurs du Canadien se défendent avec leur Sherwood. À un moment donné, il faut faire attention à ça, et je pense que Ben Sherrod en a payé le prix. Heureusement, ça n'a pas été trop dommageable pour le Canadien, mais Sherrod a manqué de discipline, entre autres. Maintenant, je veux juste dire une chose, puis je comprends, on a été éblouis par le Canadien depuis le début de la saison. Mais laissez-moi vous dire une chose, si les Sénateurs d'Ottawa avaient joué comme ça, comme les deux matchs contre le Canadien, depuis le début de la saison, on ne serait pas avec une fiche de 2 victoires, 9 défaites et une défaite en bris d'égalité. Eux ont joué un bon match aussi. Ça, il faut le mentionner. Ouais. C'est le fun, le Canadien. C'est le fun que sont supposés être les plus, mieux, meilleurs du monde de la galaxie. Mais en quelque part, il y a un club qui était prêt à jouer. Puis encore une fois, quand tu donnes une chance à une formation comme les Sénateurs d'Ottawa d'espérer, de croire que tu peux gagner un match, eh bien, ça rend le match extrêmement compliqué. Est-ce qu'on a joué le meilleur match du côté du Canadien? Non.
Non.
Mais les Sénateurs ont joué tout un match, par contre.
Bon, les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces deux rencontres contre les Sénateurs?
Ben, je suis d'accord avec Jérémy, c'est-à-dire dans la séquence vraiment horrible des Sénateurs, là, les défaites de 5-6-7-1 qui précédaient, en partant, Thomas Chabot ne jouait pas, ce qui aidait quand même pas les Sénateurs, c'est quand même bien leur meilleur joueur. Puis ça paraissait, je disais, il encaissait tellement de tirs. Je disais, Matt Murray avait un pourcentage d'arrêt en bas de 85%, c'était terrible. Donc je pense que les Sénateurs ont mieux joué. Est-ce que c'est inquiétant? Non. Mais on commence à voir quand même les limites de certains joueurs du Canadien, des joueurs qui sont surperformants en début de saison, puis là, c'est plus le cas. Si je prends la ligne de centre, par exemple, du Canadien, hein, qu'on avait déjà identifié au début de l'année comme étant peut-être une des faiblesses, écoutez, depuis 2 semaines, donc dans les 7 derniers matchs, Kotkaniemi, Dano et Evans n'ont pas de but. C'est quand même 3 centres qui, en 7 matchs chacun, n'ont aucun but. T'sais. Thomas Tatar, la même période, est -2 en 7 matchs. Donc, il y a quand même des petits signes de fin d'euphorie, je dirais, puis peut-être un certain retour à la réalité. Ceci dit, je pense encore que le Canadien est dans les 2 meilleurs clubs de la Division Nord là, avec les Maple Leafs. Puis j'ai franchement hâte de voir comment l'équipe va répondre cette semaine. Mais il reste que des matchs comme ça l'année dernière qui finissent 2-1, dans lequel il y a de l'adversité. Le Canadien les perdait, alors que cette année, il semble les gagner. Là.
Simon Lier.
Alex l'a un peu soulevé. Il y a les unités spéciales qui je trouve qu'ils donnent des signes, peut-être, je sais pas si on peut dire inquiétants, mais en tout cas, qui sont certainement pas encourageants. J'écrivais là-dessus ce matin, justement. On voit qu'en avantage numérique, on essaie des choses. Shea Weber, qui était rendu sur la 2e vague, un peu au poste de corps arrière, un peu celui que Jeff Petrie a sur la 1re. Je suis pas sûr qu'il est tout à fait à sa place. En désavantage numérique, on donne un but presque à chaque match, malgré que, en deuxième moitié de partie, ou en fait, en deuxième période, surtout, on est couler des punitions importantes du côté du Canadien samedi. Fait que ça, c'est quand même un point positif. Fait que On a tellement parlé souvent d'à quel point les unités spéciales étaient névralgiques pour toutes les équipes de la Ligue et le Canadien en particulier parce qu'il en a souffert dans les dernières années. Je pense que c'est peut-être des endroits où il faut que les correctifs soient apportés et également vraiment avoir une présence au filet plus soutenue. Ce matin à l'entraînement, c'était un entraînement à très haut niveau à Brossard. Mm-hmm. Le retour au travail avait eu congé hier et il y a eu beaucoup de batailles à 1 contre 1, à 2 contre 2 pour vraiment attaquer le filet parce que faut rendre crédit aux Sénateurs, un peu comme l'a fait Jérémy, qui ont joué un bon match. Mais il y a aussi les attaquants du Canadien ont rendu la vie assez facile à Matt Murray. Absolument. En tirant de loin. Et on l'a vu sur le deuxième but, le but de Anderson. Ben c'est vraiment quand le Canadien a fait ce qu'il a fait si bien dans les premiers matchs, ils ont attaqué le but adverse.
Exact.
Premier tir de Drouin, deuxième tir de Suzuki, puis Anderson qui fonce comme un train pour un tir dans la partie supérieure. C'est des éléments qu'il faut reproduire. Puis c'était un peu le mot d'ordre ce matin, revenir aux bonnes habitudes d'avant ces deux matchs-là.
Ben, je suis d'accord avec toi parce que j'ai trouvé que souvent, dans ces deux matchs-là, on a tiré d'endroits où la rondelle rentre pratiquement jamais. Matt Murray demeure quand même un bon gardien de la Ligue nationale et j'ai pas trouvé qu'on l'a mis assez à l'épreuve. C'est-à-dire que les tirs étaient pas de qualité. Puis comme tu viens de le mentionner, quand on a attaqué le filet, on a trouvé... Mais écoutez, je veux dire, en troisième, on marque un deuxième but. On saute avec une victoire de 2-1. Mais si le Canadien échappe ce match-là, ça aurait pu très bien arriver parce qu'Ottawa a joué une très bonne troisième période. Là, aujourd'hui, on trouve ça moins drôle, je pense.
Non, on trouve ça moins drôle, mais ce que tu constates, Jérémy, puis ce que tout le monde parle présentement, ben je pense que le groupe d'entraîneurs du Canadien constate la même chose. Ouais. Quand j'entends Simon Olivier, j'étais pas à l'entraînement ce matin, Simon Olivier était là, quand tu l'entends dire, il y avait des exercices 1 contre 1, du 2 contre 2, tu sais, ça, c'est synonyme travail. Ce que ça veut dire, c'est que si t'as un entraînement qui est vraiment plus, là, j'utilise le terme en anglais, flow drill, où t'es là pour bouger la rondelle, quand tu fais du 1 contre 1, du 2 contre 2, c'est tu veux que les gars s'impliquent physiquement, ce qu'on n'a pas vu nécessairement au courant des deux derniers matchs, où les joueurs des Sénateurs, eux, étaient prêts à sacrifier leur corps, c'est-à-dire protéger la rondelle, gagner des batailles 1 contre 1. Le Canadien, se pensant un peu meilleur, a décidé de, nous, ça sera la finesse, on sera là plus rapide, on va marquer sur l'avantage numérique. On essaie de faire des raccourcis.
Oui.
Puis je pense que Claude Julien, présentement, c'est ce qu'il dit aux gars, c'est il n'y en a pas de raccourcis là-dedans. C'est qu'un soir donné, si tu laisses l'opportunité, tout le monde peut te battre, même si t'es bien bon. Tout le monde peut te battre, on l'a vu.
C'est drôle, hein, tu parles de bataille à 1 contre 1, puis je comprends d'habitude, bataille à 1 contre 1, on parle surtout de bataille le long des bandes. Mais tu sais, on en a parlé au début de l'année, puis ça redevient un problème. Mais le succès aux mises au jeu, c'est problématique là, chez le Canadien. Ouais. Et les deux matchs contre les Sénateurs, Kotkaniemi est à 33%, Suzuki à 31%.
Ouais.
Il faut toujours envoyer Philippe Dano mise au jeu parce que lui, ça va plutôt bien, il est à 55%. T'sais, Dano tout seul a pris plus de mises en échec dans les deux matchs que Evans et Kotkaniemi combinés.
Mise en échec ou mise en jeu?
Mise au jeu, okay. Pardon. Ouais. Cool. Il a fait plus de mises au jeu que Evans et Kotkaniemi combinés. Puis ça implique que faut que tu utilises Dano presque toujours en zone défensive lorsqu'il y a une mise au jeu. Et je veux dire, ça donne moins d'occasion de marquer à son trio, qui est quand même un trio qui est capable de générer de l'attaque. Là. Fait, il y a des ajustements à porter. Tu sais, je suis pas sûr que Claude Julien aime vraiment ce qu'il voit présentement de ces deux jeunes centres, là, Suzuki puis Kotkaniemi.
Ben, je veux juste rajouter quelque chose, Alex, puis je vous laisse parler après. Mais il faut surveiller une chose. Là, on met, tu sais, l'emphase, tu la mets présentement sur les jeunes joueurs de centre du Canadien avec leur difficulté à gagner des mises en jeu. Je pense aussi, là, puis regardez bien, là, regardez les derniers matchs, il n'y a pas tant de mise en jeu franche là, que le Canadien perd. C'est souvent une bagarre qu'on va perdre, puis la rondelle va aller du côté de l'équipe adverse. Moi, je mène part de la responsabilité aussi aux deux ailiers chez le Canadien de Montréal. On est passif. On est dans le mood, on est bon, on est capable de gagner, il n'y a pas de problème. On va avoir la rondelle sur notre palette. Mais il faut assurément que les deux ailiers qui sont avec ces jeunes-là, si on parle de Jake Evans, si on parle de KK, si on parle de Suzuki même, il faut que tu jumpes dans l'action. Il faut que tu viennes aider ton joueur de centre. Il faut que tu sois prêt à bloquer physiquement pour être capable d'aider puis de prendre possession de la rondelle. Mais là, tout le monde attend que l'autre fasse la job. C'est là que ça devient problématique.
Ouais. C'est un bon point.
Ouais, j'ai comme l'impression que tu sais, tu pourras pas être dans le fond du tapis tout le temps, toute la saison. Puis j'ai comme l'impression que les Canadiens ont manqué un petit peu de motivation contre les Sénateurs.
Ouais,
là, ils savent cette semaine, là, ça va être McDavid, puis tout ça va être Matthews, puis ils vont vouloir être au rendez-vous, ils vont vouloir leur tenir tête, mais c'était peut-être un petit peu plus difficile d'aller chercher la motivation. Maintenant, t'sais, écoute, ils sont quand même chanceux de pouvoir continuer à travailler avec des Suzuki, avec des KK, qui sont présentement en bas de 50% au niveau de leur rendement dans le cercle des mises en jeu. Mais en accumulant des victoires. Fait que ça te permet d'être plus patient, ça te permet de continuer de travailler. Sommes-nous confiants que des gars comme Suzuki et Kotkaniemi vont améliorer leur... Parce que il y a des gars dans le cercle de mise en jeu qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, il y en a qui peuvent l'améliorer, mais il y en a qui sont pas capables, tout simplement. Est-ce qu'on est confiant que ces gars-là, en continuant de jouer cette position-là, vont s'améliorer à ce niveau-là? C'est ça la question.
Ben, ils n'ont pas le choix. Si tu sais, je veux dire, comme Alex disait, tu sais, si un Suzuki et Kotkaniemi sont autour de 30-35% présentement, tu sais, je veux dire, il y a pas beaucoup, je connais pas beaucoup de centres dans les nationales qui ont eu de grandes carrières en étant aussi mauvais au cercle de mise au jeu, à moins d'être des joueurs exceptionnels. Fait que c'est pas vraiment une option de ne pas s'améliorer. Là.
Non, c'est ça. Sauf qu'à un certain moment donné, là, comme j'ai dit, on est chanceux parce qu'on gagne des matchs. Mais les gars, on va se le dire, là, si Canadien gagne pas aussi souvent, probablement qu'il y aurait déjà eu des changements.
Moi, je veux juste vous dire, je pense que la cible, elle est facile à trouver. Quand on regarde les joueurs de centre, c'est facile de regarder les chiffres. Mais tu sais, je dis pas que c'est un travail facile.
Vous avez juste pour vous dire, là, Suzuki, c'est 39% ou presque 40, et Kotkaniemi, 44%.
Clairement, je comprends.
On parlait des derniers matchs, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mais je comprends. Mais je pense qu'il faut regarder que là, collectivement, ce club-là a été humain. Ce que ça veut dire être humain, c'est qu'ils ont regardé le calendrier, ils ont vu la séquence de victoires qu'ils ont eu contre les Canucks de Vancouver, puis ils ont fait « OK, on a deux matchs contre les Sénateurs d'Ottawa. Ouf, ça va être plus relax. » Mais la réponse, c'est que c'est pas ça.
Non.
Et tu es obligé, autant qu'en tant que joueur de centre, en tant qu'ailier, en tant que défenseur, en tant que gardien de but, tu es obligé de garder le même niveau d'intensité. Et ça, c'est peut-être une chose qu'on devra remarquer, mais avec une courte saison de 56 matchs, là, c'est pas « on prend le temps de préparer les séries ». Là. C'est un sprint, là. C'est un 5 km. T'sais, ceux qui sont habitués de courir, là, quand vous faites un marathon, vous avez le temps de vous établir tranquillement, pas vite. Quand tu fais un 5 km puis tu veux être sous la barre des 30 minutes, ce qui n'est pas le cas pour moi, il faut absolument, il faut que tu cours. T'as pas ouais. le choix. Et on est ouais. là chez les Canadiens. Il faut que tu cours. Parce que les points que tu donnes à l'adversaire, ouais. c'est des points qui t'empêchent de faire les séries. Fait qu'on n'a pas le choix.
Parlons des choses plus positives parce que Jake Allen a connu un excellent match samedi. Puis d'ailleurs, Jérémy, je te soulignerai que tu nous avais mentionné dans la dernière émission. Ah ouais, allez-y avec Price dans le filet, dans le prochain match et tout ça. Oh, ouais, mais sauf que là, écoute, tu viens de parler des sprints, là. Tu viens de ramasser deux points que tu sais pas si t'aurais eu.
Ben, il aurait été bon, Price. Il aurait été bon.
Ben, Jake Allen, jusqu'à maintenant, on peut pas rien lui reprocher. Moi, je lui donne une grosse partie du crédit pour la dernière victoire du Canadien. Forcément, il faut commencer à parler de la situation des gardiens de but. Je pense que cette semaine, ça risque d'être encore une fois Price mercredi, Allen jeudi, Price samedi. Normalement. Et au moment où on se parle, on n'a pas de controverse des gardiens de but. Mais les gars...
À part toi, qu'est-ce que
t'as fait? Mais moi, j'anime un show d'hockey sur le Canadien. Fait que, tu sais, à un moment donné... Non, mais les gars, si ça dure comme pendant deux semaines encore comme ça, là, t'en as un...
Gagne, c'est quoi le problème?
Clairement meilleur que l'autre. Puis il gagne plus souvent.
Ben,
guys, dans deux semaines, là, ça va commencer les lignes ouvertes là, le soir. Tu vas voir,
c'est déjà commencé.
Ben voilà. Mais écoutez... Il a gagné ce match-là, je dirais pas pratiquement à lui seul, mais il a fait une grosse différence.
Ben, tu dis qu'il gagne plus souvent que l'autre. Il gagne pas plus souvent que l'autre. Ils ont chacun quatre victoires cette année, chacun une défaite en temps réglementaire. Tu sais, c'est sûr que les statistiques, si on regarde le taux d'arrêt et la moyenne, présentement, Allen a des meilleurs chiffres, mais tu sais, c'est pas... Je continue de penser que non seulement il n'y a pas de controverse des gardiens, mais je pense qu'il n'y a même pas de confusion des gardiens. T'sais, Price demeure et va demeurer le gardien numéro un de cette équipe-là. Ça va être le partant de l'équipe canadienne l'année prochaine.
Je pense que c'est un bonus que Jake Allen soit si bon,
mais il n'y a pas de le poste de Price n'est pas en jeu. Là.
Non. Et là, qui va garder les buts de l'équipe canadienne?
On a déjà vu dans le passé un Roberto Luongo venir damer le pion à un Martin Brodeur gardien numéro un d'équipe Canada. Oui ou non?
Mais attends, Alex, là, je te laisse parler, mais là, j'embarque.
C'est ça le but.
J'ai Philo qui veut laisser tomber Mitaine. OK, parfait. Moi, je vais juste vous expliquer une chose. Ouais. Selon mon point de vue, encore là, c'est ma vision, mon interprétation. Vous me direz ce que vous en pensez.
Ouais.
Il n'y a pas de controverse parce que un club de hockey, c'est ça. C'est-à-dire, quand tu as un joueur qui connaît de moins bons moments, il faut que tu aies un autre joueur qui soit capable de compenser pour atteindre l'objectif commun, c'est de gagner un match puis d'avoir deux points au classement. Présentement, c'est ça le cas. Le cas, c'est quand Price est là, ne nous montre pas ce qu'il nous a déjà montré, moins de 900% d'efficacité, mais dans sa façon d'être, il est pas aussi stable, pas aussi carré qu'on l'a vu dans les séries. Parfait, ça tombe bien, il y a un deuxième gardien de but qui est là pour y donner un coup de main. Fait qu'elle est où la controverse? Quand il y en a un qui est moins bon, utilise l'autre, puis quand l'autre est moins bon, utilise l'autre.
Mais je pense
pas que ça marche.
Non, je pense pas que ça va marcher. Je pense que le plan est déjà préétabli, puis à moins qu'il y en ait un des deux qui se blesse ou vraiment qu'on parte sur une dérape de défense, fait, je pense que c'est déjà pas
comment,
mal.
Ça te dit comment le Canadien avait déjà prévu tout ça. Ça veut dire son échange à toi, à moi, à toi, à moi, ce qu'on avait prévu que ça pourrait être comme ça.
Puis tu sais, juste relativiser, là, oui, il est en bas de 900, là, c'est vrai, là, de taux d'arrêt, mais des gars là qui sont très proches de lui, tu sais, Tukarask, il est à 898, il a 5 victoires, 1 défaite. Carter Hart, 897, tu sais, 5 victoires, 2 défaites en temps réglementaire, là, puis 2 en prolongation. Mais il y a quand même des bons... Tu sais, Frédéric Anderson, qui est quand même dans une équipe qui gagne, là, il a 7 victoires, Frédéric Anderson, 896. T'sais. Mm-hmm. Fait que c'est pas non plus... c'est pas hors de proportion non plus là, ce qui se passe avec Price présentement. Là. Il est dans un moton là, dans le milieu où presque tous les gardiens sont là, autour de 900. Puis oui, il y en a qui sont au-delà. Allen est à 940, mais c'est exceptionnel aussi. Là. C'est pas la norme là, dans la Ligue nationale présentement. Il va très, très bien. Il est sur une excellente séquence. Puis Price est inférieur à ce qu'il nous a livré aux années d'avant. Sauf que si on regarde la liste des gardiens avec laquelle il se trouve, c'est quand même des gardiens élites de la Ligue aussi. Là.
Sauf que là...
Par ailleurs...
Oui, vas-y donc.
Ça va être rapidement là-dessus. Tu sais, j'étais aussi d'avis, comme Jérémy Rainville, que Price aurait dû garder les buts samedi, étant donné l'horaire un peu plus aéré du Canadien pour les jours présentement. Cependant, c'était le 5e départ de Jake Allen en 12 matchs. Ouais. Alors qu'on pensait qu'il y avait un calendrier de 82 matchs, Stéphane White avait dit que Price allait en garder une cinquantaine cette année. Mais si on reporte 7 matchs sur 12 pour Price, ça fait 48. Ça ferait 34 pour Allen. On n'est pas loin du compte. Là. Allen n'est pas surutilisé par rapport à ce qui était prévu. Donc, le Canadien suit le plan. Et oui. Je sais que c'est dur un peu pour tout le monde à processer, y compris parfois pour moi. Mais tu sais, le Canadien ne déroge pas du plan pour l'instant.
Là. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que là, on a deux bons gardiens, entre guillemets. Et là, on va avoir cette année, cet été, un repêchage d'expansion. Et là, on vient de régler... La situation des gardiens de but chez le Canadien, ouais, semble-t-il. Ouais. Écoutez, là, on va se le dire, ça fait depuis Yaroslav Halak là, qu'on cherchait un bon
2009,
numéro 2.
2010, ouais.
Bon, c'est ça. Fait que là, ça faisait 10 ans. Là, on en a trouvé un, 11 ans même. On en a trouvé un. Et là, écoute, je regarde les performances de Jake Allen. Et il faut pas oublier que Jake Allen, cette année, il gagne plus de 4 millions. Mais ensuite de ça, son salaire tombe à 2,8.
Ouais.
Je veux dire, si je suis le Kraken de Seattle, je regarde un peu à droite puis à gauche les gardiens qui me sont disponibles.
Ouais.
C'est sûr que je regarde le dossier de Jake Allen puis je l'étudie. Là. Ah, est-ce que
clair.
Je me trompe?
Mais non, c'est clair. C'est clair qu'il devient intéressant pour le Kraken de Seattle et Ron Francis. Maintenant, là, c'est une question de négociation. Tu sais comment que ça a marché à Vegas? C'est que tout le monde a appelé le DG de Vegas puis dit, regarde, si tu me laisses ce joueur-là, moi, je pourrais peut-être te donner celui-là, m'a donné des choix repêchage, m'a fait ci, m'a fait ça.
Je pourrais te donner Fleury.
Mais tu sais, vous comprenez le principe. C'est il faut que tu le prépares. Il faut que tu le prépares, ce repêchage d'expansion-là. Et il faut que tu t'assures que si ça fait la job, parce que là, on a un très, très court échantillon présentement. On pense que Jake Allen est bon, puis je suis convaincu qu'il sera bon. Mais quand tu as un peu plus d'échantillon, tu es en mesure de dire, OK, ça confirme ce que je veux. Puis d'ailleurs, ça doit être confirmé parce qu'on l'a extensionné, puis on le veut l'avoir. Puis après, c'est une question de négociation là, avec Francis. Puis à partir de là, ben, tu es en mesure de passer un deal, puis tu espères que ça fonctionne. Parce que oui, tu aurais besoin d'un gars comme Jake Allen.
Parce qu'à un moment donné, on disait, oh, on va perdre un Edmondson de ce monde. Mais Edmondson, écoute, entre Edmondson puis Allen, puis j'ai rien contre Edmondson. Il fait un bon, très bon travail depuis le début de l'année. Mais la question ne se pose pas au moment où on se parle. Juste pour expliquer aux gens qui nous écoutent que Carey Price a une clause de non-mouvement. Les gars, je vous laisse expliquer qu'est-ce que ça veut dire spécifiquement. Parce qu'on peut pas protéger autant de joueurs qu'on veut. Là. Alex, si tu veux y aller là-dessus.
Ben, en fait, ça veut dire qu'il faut qu'il protège essentiellement. Là, à moins qu'il trouve une entente avec lui là, pour le racheter ou pour le convaincre d'abandonner sa clause. C'est que je crois... n'arrivera pas. Si le Canadien était dernier au classement général, oui, sûrement que ça tenterait à Price, mais là, le Canadien a une bonne équipe, enfin. Je pense pas que Price aille vers là. Puis, tu sais, juste une petite nuance là, sur Allen. Allen est vraiment très tentant. Je veux dire, il est dans le top présentement des gardiens de but de la Ligue. Maintenant, tu sais, une équipe d'expansion, ça a besoin d'un bon gardien, peut-être deux, mais ça a aussi besoin de joueurs à d'autres positions. Tu sais, on le remarque présentement avec la division canadienne, là, hey, des bons défenseurs, c'est difficile à trouver. Là. Il y en a pas tant que ça là, qui sont disponibles. Puis le Canadien va devoir en soumettre pour balotage, mais au repêchage d'expansion. Alors que des gardiens de but potables pour une équipe d'expansion, ils risquent d'en avoir beaucoup. Ils risquent d'avoir Marc-André Fleury, ils risquent d'avoir Brian Elliott. Il y a quand même des options. Brandon Oldby, Yaroslav Halak ou Rask, tu sais, il y a quand même beaucoup de gardiens là, numéro 2 qui vont être disponibles, mais peut-être moins de défenseurs. Fait que moi, je mets pas une croix encore sur le fait que peut-être quelqu'un dit pour essayer de faire une petite transaction avec le Kraken, essayer de convaincre, prends un de nos défenseurs, puis on va peut-être ajouter un joueur en extra. Le Canadien a quand même beaucoup de joueurs là, qui pourraient qui pourraient jouer dans une équipe d'expansion. Tu sais, des joueurs comme, par exemple, Lekkonen ou même Byron, des joueurs comme ça. Fait que, ou même des choix repêchage qui en ont encore beaucoup l'année prochaine. Donc, attendons de voir. Moi, je suis pas convaincu encore que c'est Allen qui va
partir. Messieurs, si vous voulez, là, j'ai juste devant moi, j'ai la réglementation. Okay. Je vais en faire la lecture, OK? La liste de protection. Donc, les équipes auront deux options quant aux joueurs qu'elles pourront protéger en vue du repêchage d'expansion. C'est l'option A, 7 attaquants, 3 défenseurs et un gardien. Ou l'option B, c'est 8 patineurs qui comprend attaquant, défenseur et un gardien de but. On dit tous les joueurs qui vont posséder des clauses de non-mouvement en vigueur au moment du repêchage d'expansion et qui auront refusé de renoncer à ces clauses devront être protégés et seront inclus dans le total des joueurs inscrits par leur équipe.
Fait qu'il y a pas de discussion
sur la liste
vraiment
de protection. Et voilà, donc c'est l'histoire, c'est comment que ça va fonctionner. Moi encore là, je reviens, puis je pense qu'Alexandre t'en parlait, ça va être une question de négociation. T'sais, on va dire regarde, moi je te donne ça, fait que viens pas me chercher mon joueur, puis ou je peux te donner lui, viens pas me le chercher. Ouais. Je pense que ça va être ça l'histoire.
Simon Olivier.
Ben, j'abonde un peu dans ce qu'Alex disait, c'est que les gardiens, effectivement, c'est un luxe, d'avoir un bon gardien de but, mais sur le marché, il y en a. Il y a également il y a un marché des joueurs autonomes aussi cet été qui va s'ouvrir, là. Fait que peut-être qu'il y a moyen de patenter quelque chose. Moi, je regarde, tu sais, tantôt, tu parlais d'Edmondson. Moi, je pense que Brett Kulak pourrait être un joueur intéressant, ouais. Un joueur qui gagne pas beaucoup d'argent, qui peut être très fiable, justement, dans un rôle de soutien. Je pense que s'il y avait un deal à faire également, peut-être que Bergevin pourrait donner un anand pour que Seattle prenne Paul Byron, qui gagne cher pour jouer sur un quatrième trio. Fait que je pense que ça, en tout cas, des scénarios, on a plusieurs. Évidemment, à l'heure actuelle, après 5 matchs, Jake Allen apparaît comme une option évidente, mais je pense qu'il y a quand même d'autres. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent encore.
Mais les gars, tu sais, tu disais tantôt, je vous écoute, les gars. Alex, tu disais tout à l'heure, le Canadien a finalement une bonne équipe. C'est vrai. Ouais. Jérémy, tu disais, ou je sais pas qui disait, si le Canadien est en fin de classement, peut-être qu'on le songerait. Quand on a laissé partir Marc-André Fleury du côté des Pingouins, c'était pas une équipe là, qui s'en allait dans le trou. Là. C'était quand même encore une équipe très compétitive.
Ouais, c'est une question de budget. Là.
S'ils avaient Matt Murray, ben ouais. Nous autres aussi, on a une question de budget. Parce qu'on dit qu'on a une bonne équipe, puis on veut la garder, cette équipe-là. Mais on peut pas faire rentrer tout le monde. C'est ça la réalité.
Non, c'est ça, mais...
on a un casse-tête. Puis il va falloir que tu laisses passer.
Les Pingouins, ils ont fait un pari, là. Je veux dire, ils ont décidé de garder Murray, puis deux ans après, là, ils viennent de décider de garder Jarry, finalement. Puis ça ne va pas très bien pour Jarry non plus présentement, by the way, là.
Les Pingouins, par ailleurs, venaient de gagner deux Coupes Stanley avec Matt Murray, ouais. Tu sais. Fait que je pense que ça a milité pour lui un peu, là.
Et Marc-André Fleury fait très bien, soit dit en passant, encore une fois cette saison. Écoute, il a 36 ans et il se débrouille encore très bien. 1.25 de moyenne de but alloué, 944 pourcentage d'efficacité. Je comprends qu'il y a un gros club en avant de lui, là, mais ça se passe très, très, très bien pour lui. En tout cas, on verra ce qui va se passer. Il y a encore beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts. Mais je vous dis, les gars, ce sujet-là n'a pas fini de faire couler de l'encre. Si la situation continue comme elle est là dans deux semaines, là, Ça va commencer à chauffer. Une bonne vieille controverse des gardiens de but ici à Montréal. Bon, on va changer de sujet. On va parler de la violence parce que, tu sais, on aime ça. Mais écoutez, les gars, je veux dire, je regardais le match. Quand j'ai vu le coup d'Eric Gudbranson sur Jake Evans, j'en revenais pas encore. Je me suis dit, encore. Et sur les médias sociaux, ça s'est enflammé assez rapidement chez les partisans. Le département de la sécurité n'a même pas revu le geste, là, à ce que je sache. Ils ont même pas regardé. Je m'attendais pas à ça non plus. De toute façon, les deux coups précédents, c'est le troisième chez le Canadien qui se fait étamper de cette façon-là. Et il y a aucune répercussion. Honnêtement, les gars, je commence à avoir de la misère à suivre le processus de fonctionnement. Et je me demande comment le Canadien fait pour ne pas sortir public puis dire « Hey, excuse, à un moment donné, on va-tu arrêter de faire rire de nous autres sites, là? » Nos gars se font tamper puis il se passe absolument rien.
Moi, je pense, puis je sais pas, là, vous allez peut-être me tomber dessus, là, mais moi, je pense que le coup de Tyler Myers est encore pire que ce qu'on a vu de la part de Gudbranson.
Ben oui.
Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est arrivé à Jake Evans qui... Je veux pas embarquer dans l'histoire, c'est pas protégé. C'est pas ça, mais t'es en zone neutre, t'es en possession de la rondelle, ça se peut que ça arrive. Maintenant, est-ce que c'est une bonne mise en échec? Est-ce que c'est complètement légal? Non, je pense que c'était haut encore comme mise en échec, mais dans le feu de l'action, des fois, c'est difficile de bien jauger ça. Moi, je suis plutôt déçu de la situation du Canadien. Parce qu'on a dit, en début d'année, on a dit, nous, on peut jouer tous les styles de jeu. On peut être rapide, on peut être rough, on peut être robuste, puis on a du talent. Puis sincèrement, là, je vois pas tant que ça le côté robustesse. Je vois pas tant que ça l'implication physique. Ça, je le vois pas, là. Oui, il y a des gars qui prennent des pénalités pour des doubles échecs. On en a vu, là. Face à chose-là, là, en fin de période, double échec en arrière de la tête, Ben Sherratt. Ça, on en a vu.
C'était dangereux en passant.
By the way, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'implication physique, là, où ce jeu-là est pourrait être souligné par des mises en échec, au lieu de dire comment ça se fait que la Ligue ne punit pas, moi, je le vois pas, ça. Et ça me déçoit un peu. Je m'attendais qu'il y ait un apport physique un petit peu plus imposant, puis avoir un Josh Anderson va distribuer des mises en échec. On dit qu'il frappe, c'est un power forward, parfait. Mais frappe, montre-moi qu'est-ce que t'es capable de faire. On l'a pas vu, on voit rien.
Ouais. Non, t'as raison, mais ben, écoute, ça, c'est un autre débat, là, mais...
Ouais, mais ce qui me déçoit plus encore, c'est l'association des joueurs. Je veux dire, théoriquement, là, c'est un syndicat qui doit veiller, entre autres, à la sécurité de ses membres, là. On n'entend jamais.
Ben, c'est parce
jamais
que là, tu dis. T'as les deux gars. Les deux gars font partie de l'association.
Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Mais systématiquement, par contre, ils protègent celui qui frappe et qui risque d'avoir une diminution ou une retenue sur son salaire. T'sais. Si, t'sais, à un moment donné, entre l'argent et la sécurité, en tout cas, de mon point de vue, le syndicat des joueurs, clairement, présentement, favorise le chèque de paye. Là. On n'entend jamais le syndicat des joueurs réclamer une plus grande attention ou plus de suspension. Jamais. Puis je comprends, ils doivent défendre ça, mais ils doivent aussi défendre la sécurité des joueurs. Puis je pense qu'ils oublient des fois ce mandat-là.
Mais est-ce que la situation s'empire, Simon-Olivier?
Ben, juste pour réagir là-dessus, ouais. Je pense quand même que l'association des joueurs serait un peu en conflit d'intérêts. L'association des joueurs va pas porter plainte contre un de ses membres. Tu sais, je pense que c'est plus aux équipes, entre guillemets, de vendre leur salade. Je reviens à ce que Jérémy demandait, le Canadien doit-il sortir? Je pense pas que ça arrive, à moins vraiment que ça devienne une hécatombe, parce que le Canadien non plus, tu sais, veut pas passer pour l'équipe qui, tu sais, qui sait pas se défendre, qui est la victime dans tout ça. Mais c'est drôle, il y en a été question ce matin avec les joueurs rendus disponibles, avec Claude Julien. Des fois, j'en viens à me demander, est-ce que c'est une discussion, justement, qui intéresse pas les joueurs?
Parce que
c'est notre collègue Marc-André Perrault de TVA, de TVA Sport, qui posait des questions à ce sujet-là, puis et Gallagher et Petrie. On semblait un peu dire, tu sais, Gallagher qui dit, ben, on va rejouer contre eux, puis on va leur rappeler qu'on est là, puis Petrie a rappelé le coup contre Myers, puis qu'Edmondson était allé jeter les gants pour montrer qu'on n'avait pas oublié.
Ouais.
Tu sais, on semble être très en paix avec cette manière-là de faire, puis je me dis, tant que les joueurs vont continuer d'avoir ce discours-là, pourquoi
est-ce
qu'on changerait les choses?
C'est de même depuis toujours.
Non, mais il n'y a personne qui était voir Gudbranson en passant. Là.
Non.
Fait que donc, pourquoi tu penses qu'on veut plus en parler? C'est parce qu'on veut dire, OK, regarde, tu sais, on parlait.
Mettez-nous pas la pression.
Ben, non, mais mettez-nous pas le spot sur nous autres, parce que c'est nous qui aurions été supposés, et malheureusement, je dis bien malheureusement, parce qu'en fait, ce serait supposé être les officiels et le comité de sécurité qui serait supposé de faire attention à tout ça, mais le Canadien n'a rien fait là-dessus. Là. Il s'est rien passé. Là. Moi, là, on était dans le manche-mallow.
Ça fait 22 ans que je fais le vestiaire du Canadien, et j'en ai posé des questions là-dessus. Il n'y a jamais personne qui est sorti puis il m'a dit ce coup-là c'était dégueulasse, ça avait pas de bon sens, ça a pas de place dans notre sport. On est toujours en train de marcher sur des œufs. On dirait que les gars ont peur que à un moment donné ça va être moi qui va frapper quelqu'un, puis je veux pas non plus me retrouver avec des répercussions.
Si tu parles, là, ça va te revenir sur la glace.
Ben oui, ils vont aller te viser
ça. Ça va te revenir sur la glace. Fait que t'as pas le goût d'avoir une cible dans le dos, tu fais attention à ce que tu dis aux médias, mais moi je trouve que pour un club qui se dit un club qui peut jouer tous les styles de jeu, tough, rapide, talent, ben on n'a pas tant vu ça chez les Canadiens. Il va falloir à un moment donné qu'on commence à travailler sérieusement.
C'est les mêmes joueurs qui, dans 10 ou dans 15 ou dans 20 ans, vont poursuivre la Ligue nationale parce que là, ils ont des symptômes, ils ont eu des commotions cérébrales. T'sais, fait qu'à un moment donné, on parle des deux côtés de la bouche. J'ai beaucoup de misère avec ce que j'ai vu. Puis je veux même pas aller dans laquelle des trois était la pire. Pour moi, là, ça devrait être clair, net et précis. Tu mets ton bâton dans le visage d'un joueur, t'es puni. Mais tu frappes un joueur à la tête, peu importe la façon, tu dois être puni. Selon moi, on peut pas continuer d'accepter ça. Ça me, en tout cas,
Mais est-ce que le joueur des Sénateurs, là, selon toi, Philo, puis peut-être les gars, vous pouvez répondre à ça. Est-ce que le gars voulait blesser Evans ou le gars voulait frapper Evans?
Ben, de la manière dont tu vois à la fin où il monte son épaule pour s'assurer.
Ok, mais selon toi, est-ce qu'il voulait le blesser ou voulait le frapper?
Ben, pour moi, il y a pas de différence. Quand tu frappes quelqu'un, tu frappes pour faire mal. Oui ou non?
Ben, c'est à ça son objectif.
Il y a personne qui frappe pour que ça fasse
mais
du bien.
Mais lui, là, j'en ai vu des peureux qui visent la tête là, au lieu d'essayer de mise en échec. Lui, là, il a visé en plein milieu des deux épaules. Là. Puis il a pogné tout ce qui était en plein milieu des deux épaules. Et ah, le chest, et le cou, et la face. Ah,
mais c'est à toi de faire plus attention. C'est toi qui es responsable de ton propre corps. T'es responsable de ton bâton, t'es responsable de ton corps.
Mais d'après moi, c'est pour ça que le comité de sécurité a pas absolument
rien
fait.
Ben là, ils font plus rien. Là. Ils sont, je pense qu'ils sont en vacances. Là, je sais pas, là.
Moi, ce que j'ai trouvé un peu différent, puis on pourrait dire moins pire là, avec des énormes guillemets, c'est que j'ai eu moins l'impression que le coup de Myers et le coup de Dylan Dubé sur Kotkaniemi, j'ai l'impression que c'était littéralement des assauts. Il y avait eu beaucoup d'enjambées, rentraient à fond de train, bang, on donne le coup. Dans le cas de Gudbranson, j'ai l'impression que c'est un peu plus circonstanciel, un peu plus dans le déroulement du jeu. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont on a tenu compte également.
Mais ouais, il voulait geler.
Ça pourrait être une circonstance atténuante.
Ouais. Bon, les matchs à bas pointage, les gars, c'est un petit peu plus compliqué pour le Canadien. On l'a vu. C'est-à-dire, samedi, par contre, on a été capable de s'en sortir. On est allé chercher les deux points. C'est moins facile pour le Canadien, moins facile à regarder aussi. C'est moins intéressant, mais ça, c'est une autre histoire. Avez-vous l'impression que cette semaine, avec les matchs contre Toronto et Edmonton, on va revenir un petit peu plus? Je parle pas de victoire ou de défaite. Mm. Mais je parle de style de jeu qui va ressembler un peu plus à ce qu'on avait vu en début de saison.
Avec les Oilers, c'est sûr.
run and gun.
Non, mais les Oilers, je me demande des fois s'ils se souviennent qu'ils ont des défenseurs. C'est à ce point-là. C'est épouvantable. Je prépare un article là, qui va être publié cette semaine, en tout cas, de statistiques. Tu sais, je regardais Tyson Barry. Hey, c'est super le fun. Il a 10 points. Ça va super bien. Quand tu te mets à gratter, c'est épouvantable, ces statistiques défensives. Je veux dire, il est dans peut-être l'avant-dernier percentile de toute la Ligue nationale. Le nombre de chances de marquer que les Oilers donnent, c'est fou. Je veux dire, c'est dément. C'est quasiment deux fois plus que d'autres équipes. Fait que oui, moi, je m'attends à des pointages super élevés. Là. Je veux dire, contre les Oilers, ça va finir genre 5-4 ou 6-5.
Ben, c'est parfait, ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Puis, ça va nous donner un bon spectacle. Mais, faut admettre, les gars, que cette semaine, c'est quand même, je sais qu'il va y en avoir d'autres rencontres contre les Maple Leafs et les Oilers. Mais c'est quand même, tu sais, je pense qu'après les deux matchs contre les Sénateurs, tu veux revenir à ce que tu avais été capable de livrer en début de saison. Je pense que oui.
Ah ouais? Moi, je pense pas.
Non, tu penses pas qu'ils vont s'en relever? Tu penses qu'ils vont avoir de la misère cette semaine?
Moi, je le souhaite pas, honnêtement. Je le souhaite pas. C'était le fun de voir là, le festival offensif. C'était le fun de voir Tyler Toffoli la fin du dimanche avec le revers. Mais si moi, je suis Claude Julien, là, je me mets dans la peau de l'entraîneur-chef. J'ai jamais coaché dans la Ligue nationale. Je l'imagine. Moi, je me dis, si mon club trouve de l'énergie, ok, trouve un genre d'électrochoc, quand c'est rendu dans un festival offensif, qu'est-ce qu'on va faire quand on va préparer les séries de fin de saison? On va s'en aller où? Moi, hier, je regardais le match entre les Hurricanes de la Caroline et les Blue Jackets de Columbus. Je sais pas si vous avez mis les yeux là-dessus. Là.
Ouais, Domi a marqué.
Columbus, là, ils sont sur la job. Ils sont sur la job. Là. Ils sont sur la job parce que, un, physiquement, ils sont impliqués. J'ai pas dit ramasse tout le monde avec les gants en face. C'est que si tu veux y enlever la rondelle, t'as d'affaires à travailler. Et si tu l'as, t'as d'affaires à travailler pour la garder parce qu'ils vont aller te l'enlever. Fait que donc, je regardais le style de jeu des Blue Jackets de Columbus, je me suis dit, OK, mais le Canadien, s'il veut compétitionner, il faut qu'il soit à ce niveau d'intensité-là. Et je me dis, si t'arrives contre Toronto et Edmonton, tu dis, bon, ben là, le festival offensif, il recommence. Mais ben, je m'excuse, on n'est pas dans le mode intensité pour jouer contre ces clubs-là. Fait que tu peux pas recommencer, encore une fois, à dire, on va gagner des matchs 6-5 ou 7-4. Il faut que ça soit du jeu serré parce que je pense que le calendrier de 56 matchs, c'est une longue préparation pour les séries de fin de saison. Fait que souhaitons que le Canadien soit plus tight, soit capable de gagner bataille un contre un, ce qu'on n'a pas fait dans les deux derniers matchs. Et voyons qu'est-ce que ça va donner. J'ai pas dit que ça sera pas au pointage.
Si tu joues faut que tu sois serré contre une équipe un peu plus serrée en série, tu pourrais te faire jouer un tour.
Ah, clairement.
C'est ça. Bon, les gars, est-ce que Jeff Petrie peut gagner le Norris cette année? Le dernier qui a gagné Norris chez le Canadien, c'était aussi dans une saison écourtée. C'était Piqué Subban, soit dit en passant. Mais Jeff Petrie est vraiment bien parti. Est-ce que je me trompe?
Ben non, tu te trompes pas du tout. Je pense que si, sans dire qu'il faut que ce soit cette année ou jamais, je pense que tous les éléments sont là, en tout cas jusqu'ici, que tout lui sourit présentement, est utilisé à toutes les sauces. Offensivement, ça fonctionne. Défensivement, ça fonctionne bien aussi. Puis Claude Julien l'a dit que c'est un joueur qui a vu s'améliorer constamment depuis que lui, Julien, est arrivé avec le Canadien.
Gallagher aussi, on a parlé ce matin, hein?
Pardon?
Gallagher aussi en a parlé ce matin dans son point de presse.
Oui, Gallagher, il manifestait son admiration envers Petrie justement sur le fait que c'est un joueur qui, à son âge, continue de s'améliorer. Et ce qui est intéressant dans le cas de Petrie aussi, c'est, en fait, il y a plusieurs choses intéressantes, mais une chose intéressante, c'est qu'il est un peu moins utilisé que la saison dernière, principalement parce qu'on a Romanov sur la troisième paire qui joue à droite, qui apporte une valeur plus sûre, disons, que Cale Fleury ou Victor Mété. Mais son rôle, là, comme autant il accumule beaucoup de points, son rôle a changé. Lui-même le disait il y a quelques jours, il se sent pas la responsabilité d'animer l'attaque, de transporter la rondelle d'un bout à l'autre. Il est plus en soutien, si on veut, puis ça lui sourit parce qu'en avantage numérique, c'est le corps arrière de la première vague. À égalité numérique, il se retrouve avec des missions défensives qui sont peut-être un peu moins difficiles que chez Weber, mais néanmoins des missions importantes, mais qui lui laissent quand même de l'attitude en avant. C'est un patineur exceptionnel, donc un atout dont il sert dans les deux sens de la patinoire. Fait que je pense que oui, Petrie, plus que jamais, se retrouve dans la courte liste des meilleurs défenseurs de LNH.
C'est incroyable, ben, hein, moi, je pense, Alex, comment il est sorti de sa coquille, ce gars-là, depuis qu'il est arrivé ici.
Ouais, absolument. Mais moi, je pense que s'il y avait un vote aujourd'hui, c'est lui qui le gagnerait, là, le Norris. Là, honnêtement, je vois personne d'autre là, qui l'approche présentement. Tu sais, oui, Quinn Hughes a plus de points. Ouais. Lui, quand on parle de désastre défensif cette année, c'est épouvantable, là, vraiment. Là, t'sais. Puis Kyle Makar aussi joue bien, mais il y a un seul but. Petrie en a 6, il est plus 14 là, quand même, Jeff Petrie. Là, c'est quand même fou. Il joue presque 2 minutes et demie de moins par match que Kyle Makar. Là. Mais il est exceptionnel, il est partout, il est utilisé à toutes les sauces. Pour moi, c'est vraiment le général de cette défense-là. C'est vraiment le défenseur numéro 1, à mon avis. Là. Même, il n'y a même pas de doute dans mon esprit que c'est rendu le défenseur numéro 1 du Canadien. Puis, tu sais, je riais la semaine dernière, il y avait des projections là, sur les alignements potentiel pour les Jeux 2022. Puis il y a beaucoup de gens qui disaient « Ah, oh, je pense que Jeff Petrie va pouvoir percer l'alignement des États-Unis. » Allô?
Allô? Mais non, c'est sûr.
Allô? Il va être en première paire, parti comme c'est là, là.
C'est sûr, c'est sûr.
Mais écoute, Jeff Petrie, c'est un excellent défenseur, puis on le voit depuis le début de la saison. Puis moi, je vous dirais que l'an passé, c'était le meilleur défenseur du Canadien aussi.
Oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, faut pas tomber aussi dans l'histoire. OK, tout un début de saison du Canadien, Jeff Petrie, Trophée Norris. Attendons, donnez-nous du temps encore parce que le festival offensif, je reviens encore avec ça, ça veut pas dire que ça sera légion courant des, tu sais, je vous rappelle là qu'à la fin du mois de février, il y a des matchs contre les Jets de Winnipeg. Ça se peut que ça soit pas la même chose. Peut-être que le Canadien pourra profiter de la défensive poreuse un peu des Jets, mais ça sera des défis intéressants. C'est quoi, c'est le 28 aux alentours là, la semaine du 28 février, le Canadien affronte les Jets. Mais sincèrement, donnons-nous encore du temps pour voir comment Jeff Petrie va évoluer. Parce que les stats offensives, je ne suis pas sûr qu'ils vont rester
là. Par contre, son différentiel est quand même le meilleur de la Ligue
oui,
aussi.
Oui, oui. Et de loin.
Pas juste offensive, ça va plutôt bien des deux sens.
Et de loin, oui. Et les gars, on a déjà joué le cinquième de la saison, soit dit en passant. Hein, ça va quand même assez rapidement. Petite pause et ensuite de ça, on va parler de ce qui se passe ailleurs dans la Ligue nationale.
Chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouvez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
Bon, voilà de retour, les gars, pour les sujets ailleurs dans la Ligue nationale de hockey. On a vu, justement, que Patrick Laine a marqué hier. T'en as parlé tout à l'heure, match des Blue Jackets de Columbus contre les Hurricanes de la Caroline. Pendant ce temps-là, Pierre-Luc Dubois, tranquillement, pas vite, commence à s'entraîner, lui aussi, avec les Jets de Winnipeg. Puis, je peux pas m'empêcher de penser à, tu sais, à la date limite des transactions et de quoi ça va pouvoir avoir l'air pour les équipes canadiennes qui vont, tu sais, je veux dire, si t'arrives à la date limite qui cette année va être au début du mois d'avril, soit dit en passant, il va rester à peu près un mois à la saison. Tu vas chercher un joueur des États-Unis, il est obligé de faire une quarantaine de 2 semaines, donc tu l'as pas pour la moitié à peu près des matchs qui te restent à disputer. Je sais pas si vous avez pensé comme moi, les gars, mais je suis content de voir que le Canadien a fait son magasinage en début de saison. Normalement, là, je trouve que le Canadien, il s'en laisse toujours pour la date limite. Puis à la date limite, j'espère toujours et souvent, je suis déçu. Mais cette année, plus que jamais, je suis vraiment content de voir qu'on a fait notre magasinage avant l'année. Puis si jamais, à la date limite, il n'y a pas trop de mouvement chez le Canadien, je serais pas trop déçu non plus. Là.
Non, mais en fait, ça faisait partie de la stratégie, là, même de pas mal tous les clubs canadiens, de faire les emplettes au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est pour ça qu'on a vu que le Canadien a signé Frolic, qui a toujours pas joué en passant, là, qui a signé Perry... tu sais, qui s'est renfloué un petit peu partout. Le Canadien et l'équipe, sauf erreur, qui a le plus transigé, d'ailleurs, de cet automne dans la Ligue nationale. Donc, mais c'est pas un hasard, là. C'est, un, il voulait s'améliorer, mais deux, ça va être très difficile de faire venir des joueurs. T'sais, Dubois, ça fait quand même 14 jours.
C'est ça.
Qui fait rien. Il peut même pas être avec l'équipe, là, sauf erreur.
Il s'entraîne dans son salon.
Il a commencé, je pense, à
recommencer cette fin de semaine, ouais.
C'est ça. Mais, puis en plus, il avait été avant sur la liste de COVID à Columbus et tout ça. Donc, c'est quand même difficile. Moi, je pense pas que les équipes canadiennes vont transiger à la date limite pour aller acquérir des joueurs. Ou en tout cas, ça serait vraiment très surprenant parce que si tu mets, OK, une pause de 2 semaines, tu vas quasiment rentrer dans les séries tout de suite après. Le joueur va pas être frais. Moi, je pense que ce qu'on a là comme alignement, ça risque d'être ça jusqu'à la fin de l'année.
Outre peut-être la possibilité de blessures. S'il y a des blessures majeures, là, peut-être qu'il y aura de transactions. Ouais. Mais l'affaire qui est le fun, c'est qu'il y aura peut-être pas d'émission spéciale à partir de 6 heures le matin. Parce que les gars, ils vont patiner longtemps. Oh, ça sera pas facile.
Ben, c'est sûr que là, t'es pratiquement à côté sur le plafond. On connaît les complexités de ce type de transaction. Mais tu sais, quand je regarde les faits saillants de Patrick Laine qui marque des buts, puis là, je lis ce matin que Pierre-Luc Dubois dit ben, c'est entraîné dans mon salon pendant 2 semaines, puis tu sais, il y a des limites à ce que tu peux
il joue
faire.
Joue bien Laine avec Columbus, soit dit en passant.
Ben, tant mieux.
Il joue bien, il est intense. Ouais, non, mais tu sais, souvent, on a pensé qu'il était pas mal passif, un genre de chameau, là. Ben, oubliez ça, là. Quand ça y tente, là, il peut faire la différence dans un match, il est très, très impliqué.
Non seulement peut-il faire la différence, moi dans ma tête, Patrick Laine, c'est peut-être c'est un joueur qui, à son apogée, va être le meilleur marqueur de la Ligue nationale, le meilleur buteur en tout cas, c'est un générationnel là, sur le plan, c'est un marqueur naturel, peut-être pas un gars qui fait une différence aussi énorme qu'un Ovechkin, mais c'est un marqueur exceptionnel, fait que je suis pas surpris qu'il connaisse du succès à Columbus, t'sais. Puis par ailleurs, cette transaction-là aurait jamais eu lieu si c'était pas la situation de Dubois, la transaction aurait pas eu lieu pendant la saison, fait que je pense pas qu'on en voit d'autres, en tout cas pas des comme ça. Hein.
Puis tu sais, Laine, il y a eu quand même beaucoup de rumeurs, comme quoi aussi, il a été victime d'intimidation avec les Jets, là. Les Jets sont restés très flous là-dessus depuis 2 ans d'ailleurs, mais je pense que c'est vraiment une équipe qui a raté l'intégration de son jeune espoir, mais tu sais, fondamentalement, même si c'est un joueur très très difficile à diriger, semble-t-il, c'est quand même quelqu'un qui marque entre 30 et 40 buts par saison à 22 ans. C'est vraiment un talent unique.
Non, c'est ça. Écoute, je veux dire, j'ai déjà vu en personne Patrick Laine. Je suis un peu surpris d'entendre qu'il se soit fait intimider. Là, c'est pas un pan de mur, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Autre sujet qui, malheureusement, vient avec la COVID. Là, on vient de parler du premier sujet, mais il y en a un autre. Du côté de la Ligue nationale, on songerait, il n'y a rien d'officiel là-dedans, mais à déplacer le repêchage 2021 à 2022 et en avoir 2 dans la même année. Vous comprenez toutes les complexités qu'il y a eu du côté du hockey junior depuis un petit bout de temps. Il y en a des ligues qui jouent, il y en a qui jouent pas, il y en a qui jouent peu, il y en a qui jouent un peu plus. C'est extrêmement compliqué. Et là, ben, arrive un autre point, c'est qu'il y a des clubs qui ont fait des transactions pour avoir des choix de repêchage cette année, qui comptent sur ces choix-là aussi pour renflouer un peu leur effectif. Est-ce que ça fait du sens, les gars?
Ben, je sais pas si ça fait du sens, mais je peux te garantir une chose, c'est que je suis pas mal convaincu qu'il y a plein de dépisteurs amateurs qui aimeraient bien voir le repêchage être repoussé. Parce que quand tu regardes à la télévision, pour ceux qui évoluent, pour ceux qui jouent, là, quand tu regardes par vidéo, c'est une chose, mais quand tu es sur place, c'est que tu es capable d'explorer un environnement qui est complètement différent. Maintenant, il y a des ligues au Canada, entre autres, ou dans l'Ouest et en Ontario, où ça se joue pas présentement. Est-ce qu'on se dit qu'on ne veut pas désavantager ces joueurs-là qui n'évoluent pas présentement, qui ont pas la chance de poursuivre leur apprentissage et d'améliorer leur capacité individuelle? Moi, je pense que c'est honnête. Mais en quelque part, je trouve que ça devient, tu sais, le double check devient vraiment intense. Ces joueurs-là, ils les connaissent depuis tellement longtemps. Là. Mm. Et on a tellement peur de se tromper. C'est là qu'on voit que le repêchage a tellement d'importance. On veut tellement pas se tromper, et on se trompe souvent, que là, on dit, ah non, on va les regarder davantage. T'sais, ils les connaissent, les joueurs. Là.
Non, je comprends. Mais la valeur d'un choix de deuxième ronde, par exemple, cette année, que tu pensais obtenir quand tu as fait la transaction, ce sera peut-être pas le même calibre de joueur.
Ben, je vais l'aborder différemment. Moi, je pense que le choix va même prendre de l'importance dans la mesure où, là, on va repêcher les joueurs à 19 ans. Ouais. Fait que, tu sais, le choix de deuxième ronde de repêchage à 18 ans, il y a un niveau de gamble, si on veut, qui est le niveau habituel. Mais tout à coup, on va s'apercevoir que les recruteurs vont voir, même si, évidemment, comme Jérémy le dit, ils connaissent depuis longtemps, ben, les défenseurs du repêchage à 19 ans, c'est ça qu'ils disent. C'est qu'ils disent, les joueurs sont plus matures, le corps change à cette époque-là, la personnalité change à cette époque-là de la vie. Donc, je pense qu'un choix, justement, de première, deuxième, troisième ronde, pour des gars de 19 ans, ça va être beaucoup plus net le portrait de la situation. Fait que je pense que ça va avoir une valeur encore plus grande à ce moment-là.
Ouais. Je sais pas si...
Mais en fait, même, on le voit au baseball, hein, les joueurs, les équipes ont beaucoup plus de succès en repêchant les joueurs à 20 ans qu'à 16 ans.
C'est sûr.
Moi aussi, je pense que... Moi, je suis vraiment un partisan du repêchage à 19 ans. Je pense pas que ça va arriver. Mais oui, je suis partisan de ça. De toute façon, depuis quelques années, il y a juste deux ou trois joueurs de 18 ans qui jouent dans la Ligue nationale à toutes les années. Fait que, tu sais, on désavantagerait deux joueurs, mais on en avantagerait peut-être, tu sais, 50 ou 60 qui profiteraient d'une année de développement de plus à l'extérieur du réseau professionnel. Mais moi, je pense plutôt qu'on va y aller vers un repêchage en deux phases. C'est-à-dire probablement une première ronde à la fin de la saison et toutes les autres rondes, peut-être en octobre, en novembre ou en décembre. Là. Je pense que j'ai un feeling qu'on s'en va un petit peu plus vers ça. En fait, c'est que il va falloir être capable d'organiser, comme on dit en anglais, des combines. Je ne sais pas ce qu'est le mot en français.
Camp d'évaluation.
C'est ça,
des camps d'évaluation. Ouais. Il va falloir être en mesure de faire un camp d'évaluation. Là, il y a quand même des joueurs qui n'ont pas joué depuis un an maintenant.
Ben
ça fait quand même longtemps. Puis c'est pas juste au Canada. En Finlande, présentement, les ligues juniors non plus sont pas actives. Puis un petit peu partout en Europe aussi, c'est le cas. Donc, je pense que les équipes de l'international vont tout simplement retarder les rondes de 2 à 7 à plus tard. Mais je pense qu'ils vont probablement quand même y aller avec avec une première ronde cette année.
Les gars, les Bruins de Boston ont commencé la saison correct. Et là, tout d'un coup, avant hier, je regarde le classement, puis là, attends une minute, les Bruins sont premiers. J'ai-tu manqué quelque chose? Moi, qu'est-ce qui s'est passé? Là, ils ont gagné leurs trois dernières rencontres, mais écoute, il y en a qui plaçaient les Bruins à l'extérieur du portrait des séries. Le départ de Chara, on n'était pas convaincus non plus.
Les blessures.
Tout Carrasque, tu sais, qui s'était retiré de la bulle, ça tente-tu encore? Et tout ça, est-ce qu'on devrait
Crew
le garder?
Crew qui part.
Et là, présentement, ils ont 18 points. Ils ont seulement une défaite en temps réglementaire, soit dit en passant. Il y a juste le Canadien, je pense qu'il y en a moins en deux, ou en tout cas. Et différentiel de plus 12.
Et... Les Bruins de Boston, c'est comme Tom Brady. Tu gâches pas contre eux autres. C'est ça qu'on se rend compte. Tu gâches pas contre les Bruins. Non, mais tu sais, tant aussi longtemps que Brad Marchand va être là, que Pasternak est là, que Bergeron est là à l'attaque avec un bon jeune groupe de défenseurs quand même. Jérémy Dauzon fait une bonne job. McAvoy est solide. Carlo est là également. T'sais, c'est un bon groupe, les Bruins de Boston. Puis moi, je suis content parce que tu dis, hey, imaginez-vous si... Puis là, encore là, on va vite, là. Mais il y a possibilité de voir le Canadien affronter les Bruins en série à un moment donné si le Canadien arrive à sortir de sa division. Fait que donc, pour moi, c'est heureusement que les Bruins sont là parce que c'est vraiment un bon club de hockey. Et je répète, on gâche pas contre les Bruins, puis on gâche pas contre Tom Brady.
Ouais, non, t'as raison. Bon, les gars, on va faire une autre petite pause et au retour de ceci, les questions du public, j'en ai une chacune pour chacun d'entre vous.
Alors, chez Canadian Tire, on a tout ce qu'il faut pour que vous profitiez pleinement de votre piscine ou de votre spa cet été. Trousse d'ouverture, produits d'entretien, équipement de nettoyage, jeux d'eau, vous trouverez de tout pour vous amuser. Vous en avez besoin? Nous l'avons. Canadian Tire, notre magasin pour la piscine.
Voilà de retour avec les questions du public maintenant. Jérémy, je te laisse débuter avec la première, si ça te tente. En termes de moyenne, Price est 12e et 19e gardien. Et ils ont tous joué parmi les gardiens qui ont joué au moins 7 parties. Loin de moi de vouloir chialer sur Price, mais je me demande jusqu'ici si c'est le gardien qui doit en donner plus ou bien le jeu défensif en avant de lui. Question de Simon, le fan Dutch. Voilà.
Écoute, moi je pense que ça revient à Carey Price présentement le travail. Il doit en faire davantage, c'est-à-dire en faire davantage sans vouloir en faire trop. Parce que souvent, on l'a déjà vu au courant des dernières années, quand Price veut en faire trop, c'est pas bon non plus. Fini avec ses déplacements, souvent est à l'extérieur du filet.
Mais on n'est pas dans ce type de situation-là présentement.
Non, pas du tout. Mais je pense que lui a d'affaire à faire mieux sa job. Être plus carré devant le filet. Être plus carré, être un petit peu plus motivé, mettre un peu plus d'intensité, mais pas trop, encore une fois. Mais je pense que c'est ce week-end, il y avait un entraînement, et puis ce week-end ou hier, bref, je sais pas. Et on voyait qu'il y avait Lindgren était là, il y avait Jake Allen qui était là également, et Price travaillait avec Stephen White seul. Je pense qu'il y a des choses à travailler, d'être plus carré, d'être plus stable devant son filet. Moi, je vous le dis, c'est une question de temps avant que ça se replace. J'ai pas dit que Carey Price va devenir Superman et qu'on va lui faire une quatrième statue à Montréal. Je fais juste dire que ça va redevenir ce qu'on est habitué de lui, c'est-à-dire un bon gardien stable devant le filet du Canadien, comme Jake Allen l'est présentement.
Simon Olivier, question de Alexandre Delisle qui nous demande « On ne joue que contre notre même division pendant une année complète. Croyez-vous qu'on va avoir plusieurs « reality check » entre guillemets l'an prochain? Pas nécessairement chez le Canadien, mais peut-être pour d'autres équipes.
Pour d'autres équipes, certainement, dans la mesure où... Ben, en fait, et pour le Canadien aussi, parce qu'effectivement, ça va avoir été un an et demi sans voir certaines équipes. Donc, en fait, la plupart des équipes. Donc, oui, on va s'être déshabitué de voir les joueurs, par exemple, des Blues de Boston, qu'on aime toujours croiser. Mais, tu sais, en même temps, ça reste une question que tout le monde est dans le même bateau. Fait que, tu sais,
c'est pas une excuse.
Ben, je sais pas, tu sais, c'est un peu, c'est la situation tellement étrange dans laquelle on est, si c'est ce qui venait avec, ben, ce serait pas vraiment surprenant. Donc, oui, probablement, mais après ça, qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai pas vraiment de meilleure réponse à ça, malheureusement.
Alexandre, est-ce que les Sénateurs seront la bête noire du CH cette saison? Question de Marc-André Saint-Laurent.
Non. non, je pense que le Canadien a vraiment une meilleure équipe que les Sénateurs. En fait, je descendais même l'alignement là, joueur par joueur, puis à part Thomas Chabot, puis on peut toujours peut-être parler de Brady Tkachuk. Le Canadien a des meilleurs joueurs partout. Je veux dire, dans les 5 autres défenseurs, les 11 autres attaquants, puis les 2 gardiens, je pense que le Canadien devrait gagner probablement 8 matchs sur 10 à peu près contre les Sénateurs cette année.
Les gars, ça...
Attends, faut faire attention. L'an passé, là, il y a eu 4 matchs entre le Canadien et les Sénateurs. Le Canadien a gagné 3 matchs, mais 3 de ces 4 matchs sont conclus par un but différent seulement, et 3 des 4 matchs ont été en prolongation. Vous allez me dire, ouais, mais le Canadien s'est amélioré cette année. D'accord avec vous? Mais ça demeure que les Sénateurs d'Ottawa donnent un niveau de compétition qui est, selon moi, supérieur à ce que ce club-là offre contre d'autres formations. Donc,
Mais Jérémy, je tiens à dire que mon oracle n'est pas si mal ces jours-ci quand même. Mais qui j'avais prédit déjà allait gagner le Super Bowl? Je pense que j'avais prédit les Bucks, vendredi. Qui aviez-vous donné?
Moi, je me suis fait fou.
Moi, je pense que j'ai dit on peut pas parier contre Brady. Je me suis épuisé.
J'ai été tellement déçu des Chiefs. Ça, c'est une autre histoire. Les gars, ça vient de tomber. On commentera pas, là, mais je veux quand même que les gens qui nous écoutent le sachent. La Ligue nationale de hockey vient d'annoncer qu'il y aura des matchs supplémentaires qui seront annulés. Des matchs des Sabres de Buffalo, des matchs des Devils du New Jersey et du Wild du Minnesota. Donc, on n'est pas rendu au bout de nos peines.
C'était 3 équipes qui étaient déjà à l'arrêt.
C'est ça. Donc, ça va se poursuivre, en fait. Là. Donc, ouais. 2 matchs de plus pour les Sabres, au moins. 3 matchs pour les Devils, au moins. Et 2 autres matchs pour le Wild du Minnesota. De toute façon, on aura la chance d'en reparler vendredi. Merci beaucoup, les gars, pour l'émission d'aujourd'hui. Très apprécié. Jérémy Rainville du 98.5, Simon-Olivier Lorange et Alexandre Pratt de La Presse. Merci aussi à Geoffroy Morin du côté de la mise en onde. Mon nom, c'est Jérémy Filosan. On se retrouve vendredi. Bonne semaine, tout le monde.